France Inter.
Aujourd'hui, faut-il construire un méga collisionneur sous la frontière franco-suisse, raconté par
Gaëlle Boudoul, physicienne des particules au CNRS.
Et François Graner, physicien au CNRS et à l'Université Paris-Cité.
France Inter, la Terre au carré, Mathieu Vidard.
Le FCC, futur collisionneur circulaire, est un méga projet d'accélérateur collisionneur de particules destiné à la recherche en physique fondamentale. Il est porté par le CERN, dont le site principal est à cheval sur la frontière Suisse-France de Meyrin, dans le canton de Genève. Il y a des milliers d'accélérateurs de particules dans le monde, allant de quelques mètres à 27 km pour l'actuel principal accélérateur du CERN, le LHC. La majeure partie d'entre eux sont utilisés en médecine ou dans l'étude des matériaux. Les méga accélérateurs tels que l'actuel LHC du CERN ou le projet de futurs méga-projets sont au service de la recherche fondamentale et ne visent a priori aucune application concrète. Ils servent à accélérer des faisceaux de particules à une vitesse proche de celle de la lumière et à observer ce qui se passe lorsque ces faisceaux entrent en collision. Le projet FCC est un des projets majeurs pour l'avenir de la recherche en physique des particules. Son tracé passerait sous le canton de Genève, l'Ain et la Haute-Savoie. Le chantier s'annonce énorme et interminable. Énorme parce qu'il s'agit d'abord de forer un tunnel quasi-circulaire de 6,5 mètres de diamètre et 91 km de long. Interminable parce que les travaux de génie civil duraient au moins 7 ans. Ce projet imposerait à une région le plus grand chantier européen des prochaines décennies. Et alors que le réchauffement climatique déstabilise la biosphère, le CERN accepte l'idée d'émettre dans l'atmosphère des millions de tonnes de gaz à effet de serre pour des recherches sans application directe qui répondent à une curiosité, certes légitime mais sans caractère d'urgence. Des dizaines de milliards de francs pour quelques milliers de physiciens qui ont choisi d'ignorer les alertes de leurs collègues du GIEC. Ce texte a été écrit par Jean-Bernard Bitter dans le livre « Le CERN au mépris du GIEC » publié aux éditions d'En Bas.
Pour observer l'infiniment petit, le CERN voit les choses en grand. Un gigantesque accélérateur de particules, le FCC, 4 fois plus grand et 10 fois plus puissant que l'actuel grand collisionneur de Hadron, le LHC, mis en service en 2008. Les physiciens tentent d'en apprendre davantage sur la nature fondamentale de la matière et donc sur l'univers.
TV5 en 2019, Gaëlle Boudoul et François Graner, bonjour.
Bonjour.
À tous les deux.
Bonjour.
Et bienvenue. Le FCC, ce méga projet donc de futur collisionneur circulaire, est présenté comme le plus grand chantier scientifique européen à venir. De quoi s'agit-il exactement, Gaëlle Boudoul ?
Oui, alors, bon, plus grand chantier, je ne sais pas, mais en tout cas, effectivement, le chantier s'annonce assez important, en effet. Donc, c'est l'idée de prendre le relais de l'accélérateur qui est actuellement en phase d'exploitation, qu'on appelle le LHC, qui est déjà donc à la frontière franco-suisse, située à 100 mètres sous terre et qui donc fait 27 km. Il est donc en phase d'exploitation jusqu'à environ les années 2040, date de la fin d'exploitation de ce LHC qui aura contribué à la science donc depuis 2008. Donc c'est vraiment une très longue histoire pour cette machine qu'on a améliorée au fil du temps, qu'on a réparée, qu'on a remis en route et qui a donné des résultats attendus. On attend encore une moisson de résultats jusqu'en 2040.
C'est lui qui a permis la découverte du boson de Higgs en 2012 quand même.
En 2012, tout à fait. On pourra y revenir probablement au cours de l'émission. Je pense que c'est vraiment quelque chose de fondamental qui s'est passé au LHC. Et donc, aux alentours de 2040, ce LHC arrivera en fin de vie, tout simplement.
Mais pourquoi en fin de vie, exactement ? C'est-à-dire que les matériaux sont plus réutilisables ?
Alors, il y a plusieurs aspects. Il y a un aspect déjà scientifique, c'est-à-dire que toutes les données accumulées au cours des décennies d'exploitation du LHC nous amènent à finir de sonder ce que l'on peut sonder avec une telle machine. Et en même temps, on a aussi un effet d'usure et de vieillissement des aimants qui sont associés à cette machine sous l'effet donc, du faisceau. Après, donc, des dizaines d'années d'exploitation.
Mais on ne peut pas changer les aimants, par exemple, plutôt que de reconstruire un collisionneur beaucoup plus large ?
Toute la question, c'est de qu'est-ce que l'on veut faire ? Et donc, on s'est vraiment posé cette question, effectivement. Qu'est-ce que l'on veut faire après 2040 ? Donc, quand on arrivera à une période de transition, de toute façon, vis-à-vis de la machine actuelle. Et ça, c'est l'objet donc, d'une concertation au niveau européen et même mondial de qu'est-ce que l'on veut faire en physique des particules. Et graduellement, collectivement, l'idée a germé de faire un collisionneur plus grand qui nous permettra de sonder la matière dans ce cas-là de plus intime et vraiment de comprendre l'univers qu'on ne comprend vraiment, vraiment pas.
Donc c'est de la belle connaissance, hein, en
tout
fait.
Tout à fait.
François Graner, ça sert à quoi donc un collisionneur de particules exactement pour bien comprendre l'objet de ces instruments ?
Eh bien, je laisserais bien Gaël Boudoul justifier la finalité de cette recherche. Les physiciens des particules font des recherches sur... Les physiciens des particules essaient de comprendre comment se comportent les particules les plus mystérieuses qu'on a dans l'infiniment petit. Et là, la question qu'ils veulent faire, c'est de faire grandir le collisionneur pour avoir des énergies 7 fois plus grandes qu'actuellement pour aller beaucoup plus précisément que ce qu'ils peuvent mesurer actuellement. Ils le font pour explorer des terres inconnues, d'après ce qu'ils disent. La nature est là, et les propriétés des particules qu'on cherche sont inconnues. Et voilà, une des questions qui se posent, c'est qu'ils ne savent pas si faire un multiplier par 7, l'énergie suffira, ou s'il faut faire 10 millions de fois plus.
Juste pour bien comprendre, parce que vous êtes physiciens tous les deux, qu'est-ce qui vous distingue finalement, François Graner, par rapport à Gaël Boudoul ? François Graner, répondez.
Gaël Boudoul est physicienne des particules, donc elle travaille sur ce sujet. Moi, je suis docteur en physique quantique et statistique, donc j'ai eu des formations sur ce sujet. Depuis, je suis biophysicien, je me suis spécialisé dans des directions différentes, mais j'ai une vue large de la physique, des interfaces de la physique avec d'autres disciplines, une vue des physiciens aussi. J'ai beaucoup discuté avec des partisans et des opposants à ce projet. Et moi-même, je fais des conférences et des articles sur la décroissance. Donc, je réfléchis aux questions des limites de la recherche.
Et vous, Gaël Boudoul, donc, êtes vraiment dans cette physique des particules.
En fait, j'ai aussi une formation en astrophysique, donc ce qui me permet aussi d'avoir un peu une vue sur tous les mystères de l'univers. On s'aperçoit que c'est les mêmes problématiques. On recherche l'infiniment petit, l'infiniment grand. Ouais. Et donc, oui, je travaille auprès du CERN sur j'exploite le détecteur CMSO-LHC. Et je suis évidemment intéressé par ce futur collisionneur.
Vous êtes sur place, donc.
Je suis sur place.
Ouais. François Graner.
Puisqu'il faut finir les présentations, il est important que je dise que je ne parle pas au nom du CNRS, ni d'une communauté quelconque, mais je vais essayer d'apporter des arguments qui contribuent au débat pour qu'il se passe le mieux possible.
Parce que c'est un vrai débat aujourd'hui, et c'est une vraie question d'ailleurs très intéressante, entre le fait d'aller plus loin dans la connaissance, dans la recherche fondamentale, ce qui est absolument indispensable quand on fait de la science, et puis aujourd'hui, on a ces contraintes écologiques qui sont réelles, et un tel chantier, tel qu'il est présenté, en tout cas, aura forcément des impacts, ce sera l'objet de cette discussion. On revient un tout petit peu sur l'historique du CERN, Gaël Boudoul, parce que qu'est-ce que ça représente pour ceux qui ne connaîtraient pas bien ce haut lieu, justement, de la science en Suisse ? Qu'est-ce que ça représente dans la science européenne, justement,
Donc
le CERN ?
C'est un institut phare. Alors, il a fêté ses 70 ans en 2024, donc c'est une institution qui dure avec le temps.
Oui.
C'est un laboratoire donc européen qui a été issu juste après la guerre pour essayer de rassembler un peu les physiciens de pays européens qui sortaient tout juste de la guerre, donc qui avaient des antagonismes forts, et pour justement essayer de mettre ensemble les physiciens autour de la même table avec des nationalités différentes et pourtant opposées quelques années avant, afin de permettre d'avoir une communauté qui avance pour la science et pour la paix. Donc ça, c'est vraiment l'idée fondatrice. Depuis, le CERN a grossi et a désormais 25 pays membres, donc européens, et est associé aussi à beaucoup de pays dans le monde, pas qu'européens, puisqu'on a à peu près 70 pays qui sont associés au CERN. Et donc, c'est un fleuron un peu de la recherche mondiale en physique des particules. On a l'outil, effectivement, le plus puissant en physique des particules. Donc, c'est vraiment, quand on veut faire de la physique des particules dans le monde, c'est au CERN que ça
voilà,
se passe.
Couronné par un prix Nobel, donc entre autres, pour le boson de Higgs, donc en 2012. Ce type de recherche, qu'est-ce que ça pourrait encore permettre de découvrir comme grande découverte majeure dans votre domaine, Gaël Boudoul ?
Je crois tout, tout, parce que en fait, donc la découverte du boson de Higgs en 2012 a été majeure. Elle nous a permis de quelque part allumer un vrai phare au cœur de l'océan de la connaissance pour nous indiquer où il fallait regarder, chercher, et nous donner aussi l'étendue de ce qui reste à voir. Rendez-vous compte qu'il y a 5 fois plus de matière dans l'univers invisible que visible. Mmh. Cette matière invisible, elle n'est pas que invisible, elle est aussi inconnue. On ne sait pas ce que c'est et on voit ses effets. On ne sait pas pourquoi la matière a dominé l'antimatière. Et donc, tout ce genre de choses. Donc, en fait, la grande question philosophique, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? On n'y répond pas philosophiquement, mais on essaye d'apporter des éléments scientifiques. Et la réponse, elle n'est pas évidente.
Et ça mobilise une communauté extrêmement importante, hein, pas seulement en Europe d'ailleurs, mais dans le monde entier.
Hein. Donc évidemment, on est associé aux pays du monde entier, évidemment les États-Unis qui sont partie prenante dans le CERN, mais pas que, on associe aussi beaucoup de pays émergents, ce qui permet aussi une diffusion un peu de la science de façon assez horizontale dans l'ensemble du monde entier. Et donc oui, ça représente une communauté très très large et mondiale.
Une communauté en compétition, François Graner, quand on regarde les choses de l'extérieur, qu'est-ce qu'on peut en dire aussi?
Oui, justement, quand on nous parle de compétition ou de maintenir le leadership européen, je ne sais pas s'il faut en rire ou en pleurer. Je pense qu'on est tous d'accord qu'il faut que ce soit de la collaboration et que si ces recherches sont faites à un endroit ou à un autre, si les résultats sont intéressants, qu'importe si elles sont en Chine ou en Europe.
Sauf que c'est aussi une justification de ces méga-projets, finalement.
Sauf que, justement, le savoir-faire technologique, les retombées pour les industriels, c'est ce qui est mis en avant. Le leadership, c'est ce qui est mis en avant pour les décideurs. Et même, c'est inclus dans la manière dont les agences de notation notent les pays, qui est la question des dépenses en recherche fondamentale est incluse. Et donc, il s'agit pour les pays de se faire bien voir aussi des agences de notation. Donc, on est sur un éventail de motivation de la part des financeurs qui ne sont pas du tout aussi désintéressés et collaboratifs que celles des scientifiques eux-mêmes.
Comment vous répondez à ça, Gaëlle Boudoul?
Je réponds par le fait de notre organisation pure permet de lisser ce genre de choses. C'est-à-dire que lorsqu'une découverte est faite au CERN, il n'y a pas un pays qui peut tirer la couverture à lui. C'est-à-dire, quand on a découvert le boson de Higgs en 2012, l'ensemble des participantes de tous les pays ont signé de façon égalitaire, qu'on soit au Pakistan, aux États-Unis ou en France. Donc, ce qui permet justement, en fait, à la fois une pacification dans les relations et du coup de calmer un peu ces espèces de tensions qu'on voit par ailleurs, où effectivement on essaye de tirer la couverture à soi. Là, la science qui est fournie au CERN, elle est fournie de façon unanime à tous, gratuitement, et à tous les participants de façon équilibrée.
François Graner, qu'est-ce que vous voyez-vous d'abord? La compétition, alors, justement, ou la belle recherche fondamentale?
Alors, le tout est important. Pendant des années, on a parlé de compétition possible entre la Chine et l'Europe pour construire un appareil chacune de son côté. On a même pensé jusqu'à il y a très peu de temps qu'il pourrait y avoir un risque d'en avoir deux. Alors on va déjà débattre de la question, est-ce qu'il en faut zéro ou un? Mais la question d'en avoir deux, pour moi, me paraît absurde. Ouais. Heureusement, déjà, la Chine a l'air d'hésiter très fortement et de reporter, elle a dit il y a peu de temps, qu'ils reportaient au moins de 5 ans leur décision. Donc cette espèce de course qu'il y a pu avoir, au moins, est terminée. Et espérons peut-être que le CERN pourra aussi avoir une attitude de prudence.
Pour le dire rapidement, est-ce que c'est pour vous une priorité aujourd'hui, François Graner, de construire un méga collisionneur?
Alors, on va parler de l'impact écologique, mais disons, pour moi, le FCC, c'est quelque chose qui est planifié pour tout le 21e siècle avec une mentalité du 20e siècle. Et donc, pour moi, on peut avoir des priorités en recherche fondamentale, mais je pense qu'il faut vraiment changer notre façon de penser avant de développer ce genre de projet.
Et vous, Gaëlle Boudoul, sur cette question, avant de passer justement aux impacts écologiques?
Oui, bien sûr. Je pense que la mentalité du 20e siècle a vraiment changé, même au cœur de la communauté de la physique des particules. C'est évident, la nouvelle génération nous pousse d'ailleurs, de toute façon. Et on voit bien que justement, le projet qui est en cours d'instruction, de ce projet, n'est pas du tout instruit de la même manière qu'on aurait pu instruire le projet qu'on a fait il y a 20 ans, où on prend en compte effectivement toutes les considérations environnementales et sociétales lors de la construction de ce projet.
On va en discuter, parce que c'est vrai que derrière ce rêve scientifique, le FCC soulève quand même des inquiétudes sur l'impact sur l'environnement. On va en discuter dans un instant, et puis vous répondrez également aux messages, aux questions qui arrivent pour vous sur les réseaux sociaux de la Terre au Carré, puis également, amis auditrices et auditeurs, vos messages vocaux sur l'application Radio France.
La Terre au Carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
Charvenay, petite commune française à 35 km au sud de Genève.
Un coin encore préservé, comme vous le voyez. Il y a une route qui passe là, mais autour, il y a des jolies forêts et des champs.
Cet endroit paisible sera sur le tracé du futur collisionneur circulaire ou FCC du CERN. Ici prendra place un des 8 sites de surface de 5 hectares. Pour ce conseiller régional, c'est une aberration environnementale.
Ça va demander énormément d'énergie. Le projet du CERN vient dire aux habitantes et aux habitants, on vous demande de faire un effort pour baisser votre empreinte carbone et vos émissions de gaz à effet de serre, mais nous, avec le CERN, on va rajouter des tonnes et des tonnes d'émissions supplémentaires. Tant pis pour vous.
Voilà, en 2024, dans le journal de la radio-télévision suisse, c'était Benjamin Joyeux, conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes. Gaëlle Boudoul, physicienne basée au CERN, François Graner, physicien au CNRS. Vous êtes avec nous pour parler donc de ce projet de méga accélérateur de particules, le FCC, qui pourrait voir le jour, il faut parler au conditionnel pour l'instant, sous la frontière franco-suisse. Alors quand d'ailleurs, c'est quoi le calendrier, Gaëlle Boudoul?
Alors le calendrier, donc c'est en cours d'instruction ce dossier, donc c'est à plusieurs niveaux, au niveau scientifique, c'est-à-dire que est-ce que vraiment ce projet vaut le coup scientifiquement?
Ouais.
Donc ça, c'est instruit par une instance qu'on appelle la stratégie européenne de la physique des particules, qui prend plusieurs années pour réfléchir sur le futur et qui est en train de rendre sa copie en fin d'année pour expliquer ça. Il y a ensuite, en fait, le CERN en tant que tel n'est pas du tout une instance décisionnelle. La décision, elle est réservée aux États qui vont décider, donc les 25 États membres du CERN, qui vont décider, une fois qu'ils auront reçu dans leur dossier donc le compte-rendu de la stratégie européenne, mais aussi le compte-rendu de la faisabilité, de l'étude de faisabilité au niveau technique, environnemental, etc. Donc une fois qu'ils auront tous ces éléments, ils pourront prendre la décision en 2028. Et au cours de ces deux prochaines années, donc en plus de recevoir toutes ces informations, il va y avoir organiser un débat public qui est donc complètement codifié en France, hein, qui est indépendant. La CNDP s'est réunie le 5 novembre là, pour décider que donc, ce débat public serait lancé en 2026.
Ouais. Donc François Graner, ça n'est pas fait encore, hein?
Non, pas du tout. On vient de recevoir les 1200 pages de la faisabilité du CERN, hein, qui était au printemps. Il y a eu ce livre des opposants que vous avez cité.
Ouais.
Et donc, il y a effectivement beaucoup de débats. Et alors, notamment sur le plan écologique, je vois que, par exemple, il y a des consensus entre le CERN et les opposants sur des chiffres comme les gravats à enlever, la consommation en électricité ou en eau. Mmh. Il y a beaucoup plus de difficultés à avoir un accord sur les émissions de gaz à effet de serre et sur la rentabilité économique aussi.
Ouais.
Là, il y a un gros trou, à mon avis, dans la question de faisabilité, c'est toute la question du matériau, impact environnemental, fiabilité globalement du projet long terme.
Alors, il faut le décrire un petit peu pour nos auditeurs et auditrices, François Graner, qu'on ait bien en tête à quoi ça peut ressembler. C'est un grand cercle, hein. C'est un anneau de 91 km de circonférence, 91 km sous la frontière donc entre la France et la Suisse, comme d'ailleurs l'est actuellement le LHC avec ses 27 km. Donc, à quoi ça ressemblerait concrètement ce chantier? Alors,
le chantier a beaucoup de camions. Typiquement, c'est facile de calculer le volume d'un tunnel comme ça. Il y a 16 millions de tonnes de matériaux à enlever, plus ou moins 10%. Il faut d'abord savoir où on va les mettre, et ça, c'est un des gros soucis du CERN qui n'a pas encore, qui étudie la question, mais qui n'a pas encore trouvé tout. Mais et apparemment, pour les ingénieurs ou physiciens avec qui je parle, c'est pas un gros souci, ces matériaux-là.
Oui.
Pour les voisins, c'en est beaucoup plus, parce que 16 millions de tonnes de matériaux, si vous avez des camions de 15 tonnes, qui sont des gros camions quand même, mais ça en fait plus d'un million.
Oui.
Donc, faut quand même se poser la question.
Gaëlle Boudoul.
Alors, moi, je viens de Saint-Étienne, où il y a les terrils des mines, et donc, on appelle ça des crassiers, donc je suis sensible à ce genre de choses. Donc, non, les physiciens des particules n'ignorent pas ce genre de choses. En fait, donc, effectivement, l'excavation du tunnel, donc, qui fera à peu près 5,50 m de diamètre sur les 91 km, est un vrai sujet, dont le CERN effectivement s'est pris d'essayer de trouver des solutions. L'idée, c'est d'essayer de sur l'ensemble de ces excavations, d'en réutiliser in fine 70% d'une manière ou d'une autre. Mmh. Et donc, c'est les solutions envisagées, qui sont effectivement toujours en étude, hein, ça serait de faire soit des matériaux de construction à partir de ces excavations, ou de rendre, alors ça c'est l'idée nouvelle qui a germé depuis quelques années, de rendre fertiles ces matériaux d'excavation, donc d'en faire des champs qui pourraient être fertiles.
Mais il n'en restera pas moins que ça va évidemment modifier tout un écosystème, hein, qui est celui justement sous cette frontière.
C'est effectivement quelque chose qui est à prendre en compte et tout à fait.
Pour vous, François Graner, quels sont justement les points les plus critiques sur les impacts écologiques de ce projet ?
Alors, bon, je vais évacuer, à mon avis, ceux qui sont les plus simples. La question des gravats, il faut penser que le projet est prévu avec une deuxième phase plus grosse, oui, et dont on ne connaît pas encore toutes les technologies, il faudra peut-être faire un tunnel plus gros, et si on est amené à devoir augmenter le diamètre du tunnel de 50%, ça doublerait encore le volume des gravats.
Il y a deux projets en fait.
Il y a deux projets, et donc il faut penser que ça pourrait être effectivement deux fois plus gros.
Juste pour ce point-là, donc la deuxième phase du projet qui sera aux alentours, s'il se fait, de 2070, hein, la première phase d'exploitation il n'est pas prévu d'augmenter le tunnel, parce que justement...
Ça restera dans les 91 km.
Exactement, l'idée c'est que justement la taille du tunnel est prévue pour héberger les deux phases d'exploitation.
En longueur, oui, mais pas en diamètre.
Bon, on continue en tout cas
sur... peut-être un détail. Des points importants. L'eau de refroidissement, il y a un consensus à mon avis sur les deux côtés. La consommation est de l'ordre de 3 millions de mètres cubes par an, avec un peu moins actuellement, un peu plus à monter à 5.
Pour les travaux en fait
Non, pour le fonctionnement.
Pour le fonctionnement.
L'eau de refroidissement, il y a beaucoup de chaleur à évacuer. Mmh. C'est donc comparable à ce qui est actuel, on va dire en ordre de grandeur. C'est pas le point d'achoppement principal, même si c'est déjà énorme. Hein. C'est quand même, par exemple, le canton de Genève est obligé de compter le CERN séparément dans toutes ses analyses de consommation d'eau. Alors, l'électricité. Actuellement, et on compare à ce qui est actuellement, ça consomme la puissance d'un demi-réacteur nucléaire. Et la deuxième phase, on ne sait pas encore combien elle va consommer. Il y a deux projets. Un qui est celui qu'on saurait faire, il faudrait passer un réacteur nucléaire entier, 800 mégawatts. Et ça, c'est un chiffre qui a fait réagir beaucoup de gens.
Pour le fonctionnement ?
Le fonctionnement, c'est quelque chose qui a fait réagir beaucoup de gens. Le CERN a évoqué une autre possibilité avec une technologie qu'on ne maîtrise pas encore, qui permettrait de diviser par deux et de passer à 400 mégawatts, ce qui reste encore, évidemment, des chiffres élevés.
L'empreinte carbone, alors, on est capable de la calculer ou pas déjà avec les travaux ?
L'empreinte carbone, le bilan qu'a fait le CERN est que le coût le plus grand sur l'empreinte carbone, ce serait la construction. Et pas tellement le fonctionnement. Il se base sur une électricité décarbonée, ce qui veut dire qu'il pense que tous les progrès en électricité décarbonée du canton de Genève ou de la France ou de la Suisse seraient récupérés en bonne partie par le CERN. Mais
il y a discussion sur les chiffres.
Il y a une discussion aussi sur la quantité. On parle de millions de tonnes d'équivalent de CO2. La question c'est à quoi il faut les ramener pour comparer ? Est-ce qu'il faut les ramener au cumulé ou par année? Le CERN dit on fait un projet sur 70 ans, donc il faut le diviser par 70. Les gens qui s'intéressent au climat disent ce qui compte, c'est la quantité cumulée, donc une fois que vous l'avez mis dans l'atmosphère, c'est ça qui compte, et donc ça fait beaucoup. Voilà.
Donc empreinte carbone, excavation, biodiversité.
Alors,
parce que là aussi, il y aura des impacts forcément, puisqu'on touche à un territoire, un large territoire.
Vous voulez intervenir ?
Non, alors je pense sur l'empreinte carbone, effectivement... la majorité donc de notre électricité, parce que c'est ça dont on parle, provient de la France, qui est décarbonée et essentiellement. Bon, on parle d'un demi-million de tonnes, certains parlent d'un million de tonnes. Pour comparaison, les JO de Paris, c'était 2 millions de tonnes. Donc déjà, les JO de Paris, c'était plus, bien qu'ils aient fait un effort fondamental, puisqu'ils étaient au niveau des Jeux de Tokyo où il n'y avait personne, donc il faut saluer l'effort. Je pense que l'idée, entre les premières phases et la deuxième phase, l'idée, c'est vraiment pour cette première phase d'exploitation qui va donc, je rappelle, durer jusqu'en 2070, c'est quand même loin, moi je serai en retraite depuis très longtemps, on essaye de viser quand même une consommation constante par rapport à ce qu'on fait déjà faire aujourd'hui, que ce soit en eau ou en électricité. Donc ça, c'est déjà une prouesse, et c'est en gros ce qui est prévu, et il n'y a pas trop de marge ici où on peut se tromper. La deuxième phase est effectivement, à l'heure actuelle, prévue d'être un peu plus gourmande, mais avec la technologie d'aujourd'hui. Qui peut prétendre qu'aujourd'hui, on ait la même technologie qu'en 2070?
Donc, mais ça, c'est un pari sur le futur, quand même.
Oui, mais un pari sur le futur dans quand même beaucoup de décennies. Donc, je pense mais pour finir quand même sur le pari, c'est pas juste on espère, c'est-à-dire qu'on travaille sur justement limiter la consommation des aimants qui seront le gros de la puissance.
Sur la biodiversité.
Alors, l'éléphant dans la pièce, c'est la question des matières, des matériaux utilisés, qui est à la fois la production des matériaux, la pollution que ça engendre et leur élimination ensuite. Et c'est l'ensemble de ça qui est extrêmement faible dans le rapport de faisabilité, en particulier parce qu'on ne l'a pas demandé nécessairement au CERN. On parle de 120 000 tonnes de matériel, donc 12 tours Eiffel pour la première phase, de 300 000 tonnes de matière d'acier et de minéraux, pour donc 30 tours Eiffel pour la deuxième phase. Et donc ça veut dire qu'à la fois on pollue beaucoup et en plus on pille les réserves du futur. Et ce qui veut dire aussi, comme certains de ces matériaux sont très rares, comme le niobium par exemple, ça veut dire qu'on a des risques que le projet s'arrête au milieu, parce que personne ne peut prévoir si on aura non seulement l'argent, mais aussi les matières. Et le plus gros risque, à mon avis, c'est que comme l'accélérateur américain, ce projet s'arrête au milieu.
Alors ça, ce serait le pire du pire, parce que finalement, il servirait à rien avec tous les dégâts que ça aurait déjà engendré.
Exactement. On aurait le projet américain, après avoir dépensé 2 milliards de dollars, nous a laissé 23 km de tunnels inutiles.
C'est ça. Gaël Boudoul, là-dessus, c'est quand même
aberrant, non ? Je pense que personne, même que ce soit au CERN ou ailleurs, n'a envie que le projet commence et s'arrête au milieu.
Sauf qu'il y a un précédent américain, quand même.
Mais bien sûr. Mais le précédent américain était plus lié à quelque chose d'une façon dont les Américains gèrent leur projet plutôt que d'autres choses.
Les Européens sont meilleurs là-dessus ?
Je pense que les Européens sont meilleurs pour faire des projets à plus long terme. Effectivement, à se projeter sur des financements et des engagements à plus long terme, effectivement.
Jusqu'où la science doit-elle aller ? Au nom de quoi ? On va en parler avec vous dans un instant. Je suis sûr qu'il y a des messages aussi pour vous interpeller sur cette question. Oui, me fait signe Lucie Sarfati. Ils sont nombreux ces messages pour vous. Franceinter.fr et puis également nos réseaux sociaux. L'application Radio France, si vous souhaitez nous laisser vos messages vocaux.
France Inter. La Terre au carré.
Contre le nouveau projet du CERN, le FCC. Il y a une pétition en ligne si jamais.
À Marlioz, ce terrain est situé à proximité du tracé. Les propriétaires ont reçu un courrier les informant de prochaines investigations géologiques.
Réalisation de forages, carottage, d'installation de piézomètres et l'emploi de réfraction sismique par dispositif pyrotechnique.
On a fait part de nos inquiétudes à la direction du CERN en signant une lettre, les 25 maires de la communauté de communes du Céronne. Je ne suis pas du tout contre la recherche et contre le projet lui-même, mais je suis vraiment inquiet des impacts et puis de ce qui va se passer sur notre territoire.
Voilà, reportage dans le 19-1 de France 3, c'était en février 2024. Gaël Boudoul et François Graner, physiciens tous les deux, pour parler de ce méga projet d'accélérateur de particules, le FCC. Donc, projet, on l'a dit tout à l'heure, c'est pas encore signé, sous la frontière franco-suisse. Les opposants, François Graner, dénoncent un manque de concertation sur le sujet. Est-ce que c'est fondé, ça, ou pas, selon vous ?
Alors, ça dépend de ce qu'on appelle concertation. Le CERN commence à voir qu'il y a des oppositions et donc commence à faire de la communication. Ça ne veut pas dire qu'il y a de la concertation avec les riverains et qu'ils vont participer à la prise de décision.
Pourtant, il y avait un débat qui a été évoqué tout à l'heure.
Le débat sur les impacts locaux n'est pas la même chose. C'est-à-dire une discussion sur est-ce que les impacts locaux sont graves ou pas n'est pas la même chose que est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on fasse le projet ou pas.
C'est pas ça la question du débat.
Les parlementaires eux-mêmes français qui vont faire partie de la prise de décision normalement, eux-mêmes trouvent attire sur la vigilance, sur le fait que la décision a été prise beaucoup avec de l'entre-soi et qu'il faut donc impliquer des physiciens comme moi ou d'autres gens qui sont d'autres disciplines et des gens qui sont non-physiciens pour que la décision soit politique et multi-arguments et pas uniquement prise par les physiciens des particules, parce que les opposants disent qu'en fait les vraies décisions ont été prises beaucoup avec des gens qui sont impliqués et qui ont un intérêt au projet.
Bien sûr, voilà. Le coût d'ailleurs, on peut le rappeler peut-être, les chiffres qui circulent.
15 milliards pour la première phase, 19 milliards pour la deuxième phase, donc on s'engage typiquement sur un budget de 34 milliards avec...
Au bas mot. Gaël Boudoul, est-ce qu'on peut imaginer un tel projet sobre Ou est-ce que ça ne va pas du tout avec le concept ?
Alors, c'est une bonne question. Je pense qu'il faut... Il faut penser sobriété avec une vision large, comme a rappelé mon collègue. Qu'est-ce que ça veut dire que ce projet, c'est pas juste la construction évidemment d'un tunnel et de regarder quelques particules. Ça s'inscrit dans une démarche en gros plus profonde que ça. Donc effectivement de production de connaissances, on en a parlé un peu au début, de connaissances fondamentales vraiment de notre univers, de questions vraiment fondamentales pourquoi nous sommes là. Mais aussi ce projet entraîne dans son sillon toute une organisation qui est positive au sens de le CERN a une mission de transmission au niveau de centaines d'étudiants, de centaines de jeunes qui viennent nous voir, qui apprennent aussi les valeurs de communautarisme, de collectivité, de partage de la science, de partage du savoir. Donc c'est aussi tout cet ensemble européen, pour une fois, on a quand même un projet européen dont on peut être fier, qui est mené ici, plutôt que d'avoir des pays individuellement menant leur propre projet, dont la somme pourrait être pire en termes de bilan CO2 si on fait ce genre d'approche.
Gaël Boudoul, on a entendu la position de François Granet sur cette question, sur ses réserves, évidemment. Quelle est votre position, vous, vraiment ? Parce qu'on entend, évidemment, tout ce qui concerne la science, qui est absolument indiscutable. On a besoin de connaissances, ça c'était essentiel, évidemment. Mais on ne peut plus ignorer aujourd'hui les impacts écologiques. Comment vous vous situez, vous, là-dessus ? Est-ce que c'est dissonant pour vous, cette question ?
Non, pas du
Ou est-ce
tout.
Que vous faites la part des choses en vous disant que même vous pourriez arriver à renoncer à un tel projet ?
Je pense que l'avantage de cette époque, c'est qu'on peut entendre beaucoup de voix qui sont pas forcément toutes unies.
Alors quelle est la vôtre
ma voix, donc, c'est que scientifiquement, je suis convaincue que ce projet pourra vraiment amener des réponses à des questions fondamentales.
Ça, on l'a entendu, ok.
Donc ça, c'est sûr. Et au niveau impact environnemental, je vois cet effort absolument monumental, aussi bien au niveau ressources financières que implications, sur une volonté d'avoir une trajectoire de transition énergétique et d'optimisation de ce projet.
Donc vous dites on fait quand même beaucoup d'efforts pour essayer de...
Et ça, je pense qu'il faut l'encourager. Voilà.
François Graner, qu'est-ce que vous répondez ? Est-ce qu'il faut encore construire des machines comme ça aujourd'hui, toujours plus grandes pour avancer dans la recherche ?
Là, je voudrais vraiment dire que je vais donner une opinion qui est personnelle. On n'est pas en train de parler de faits scientifiques, mais d'opinion, vraiment. Je pense, franchement, que si les scientifiques annoncent on pourrait le faire, mais on va y renoncer volontairement, ça serait un très beau message et qui serait très moderne. Notamment... Et je vais essayer d'expliquer pourquoi. Emmanuel Macron l'a bien rappelé, comme tous ses prédécesseurs, la science et la recherche, permet de construire la croissance. Il l'a dit dans son discours aux chercheurs en décembre 2023. La recherche est perçue comme un moteur de la croissance, et c'est pas faux. C'est-à-dire que ça contribue beaucoup. Or, la croissance, on a une activité économique qui est insoutenable, et la faire croître est une absurdité. Et donc ça, les jeunes générations s'en rendent vraiment compte et attendent un message très fort. Et on voit très bien même les physiciens, le grand congrès des physiciens de 2023 a conclu, la dernière phrase c'était ça, on est schizophrène, on est passionné par ce qu'on fait, on veut transmettre notre passion aux jeunes générations, et en même temps, on voit bien qu'on va dans le mur et qu'on contribue, nous, à aller dans le mur. Et donc, il y a beaucoup de disciplines qui ont fait leur examen de conscience. L'astrophysique l'a fait, par exemple. Ils n'en sont pas encore à la mise en action. Mm-hmm. Et là, je pense que si la physique des particules, où on a un projet emblématique, si elle prenait ces décisions-là, elle donnerait un vrai message fort dans la bonne direction.
On a vu passer assez récemment, d'ailleurs, un communiqué de la part de physiciens et de physiciennes qui signaient contre, justement, en disant il faut être capable de dire non à ce projet-là.
Tout à fait.
Ils se sont exprimés publiquement sur la question.
400 scientifiques.
400 scientifiques, c'est pas rien. Vous n'étiez pas signataire, Gaël Boudoul, évidemment.
J'étais pas signataire et je dirais au contraire, donc j'étais dans cette époque-là, quand il y a eu cette tribune, on était en France, en particulier au CNRS, en pleine phase de débat en interne, où justement le consensus qui est ressorti, c'est qu'il fallait faire cette machine.
Ouais.
Donc vous voyez, je pense qu'il y a aussi, je pense que c'est très bien qu'il y ait des débats, parce que c'est comme ça que la science avance.
Et il y en a au sein du CERN d'ailleurs des débats, on va les découvrir tout de suite.
Mais je crois que la conclusion justement cette stratégie qui a été mise en place vraiment au sein des laboratoires tout d'abord, qui est vraiment de la base, et que le consensus est que cette machine est importante pour nous.
Allez, on passe au message. On a Camille qui nous écrit du CERN. Ingénieur moi-même au CERN, beaucoup de mes confrères ne sont pas convaincus par la nécessité du projet FCC. Il n'y a d'ailleurs pas de consensus au sein des employés du CERN non plus. Le CERN peut rester un centre majeur de la physique des particules sans nouveau projet écocide. Que pourrait-on faire à la place ? Ça, c'est la vraie question, François Garner, que pose Camille en ce message.
Alors, moi, je pense que les scientifiques peuvent donner un autre message, qui est celui qu'il y a des limites sur la planète, qu'il faut les accepter, qu'il faut qu'on est capable de renoncer à la volonté de puissance et de raisonner différemment. Et ça, ça amène à quelque chose qui est la décroissance, c'est-à-dire décroître la taille, la vitesse, la puissance de toutes nos activités, et pour évidemment diminuer massivement la consommation d'énergie, de matière, l'impact sur l'environnement, pas seulement le carbone, et pas seulement mettre un menu végétarien à la cantine du CERN. Voilà.
Thierry nous dit, bien sûr qu'il faut le faire ce projet, quoi qu'on fasse, il y aura toujours une empreinte carbone, mais gardons les projets partagés qui nous font avancer et non partir en guerre.
Eh bien, je pense que ça résume très bien ce que je pense. Je pense qu'il faut aussi faire attention aussi aux effets de seuil. C'est-à-dire que si on peut réduire une voilure, effectivement, et je pense qu'il faut réfléchir à réduire la voilure, attention qu'on arrête le bateau complètement.
On va écouter le message de Luigi qui vient de nous appeler sur l'appli Radio France.
Bonjour Luigi, j'habite Montmorency. Ma question est simple, ce nouvel accélérateur de particules que l'on se propose de réaliser, à quoi va-t-il véritablement servir ? Contribuera-t-il à travailler ou à lutter contre le réchauffement climatique ? Si la réponse est non, alors je m'interroge franchement de l'intérêt de dépenser de l'argent pour un nouvel accélérateur, alors que nos préoccupations sont franchement ailleurs.
Alors Gaël Boudoul, est-ce que oui, il pourrait aider justement à la science du climat ?
Probablement, mais effectivement, on ne va pas se mentir. Oui, non, mais on ne va pas se mentir, c'est un objet de recherche sur la matière et l'univers, donc
oui,
pas sur l'environnement.
Cheveux,
oui et non, mais en même temps, on parlait tout à l'heure de la consommation électrique de la deuxième phase de ce projet qui effectivement suscite quelques questionnements.
Oui.
Quand je dis on fait un pari sur l'avenir qu'on va le réduire, donc le pari il est aussi très concret, où on fait de la recherche sur comment faire que ces aimants supraconducteurs qui sont utilisés pour cette machine puissent travailler à haute température.
Oui.
Si on arrive à faire ça, alors ça, on peut exporter ça à toute la planète et réduire significativement notre impact.
François Graner,
je veux bien croire qu'il y aura beaucoup de retombées technologiques à un projet comme ça. Ce sera toutes ce qu'on appelle les technologies zombies, comme dit le physicien José Allois, spécialiste des matériaux, c'est-à-dire des technologies qui demande de tels matériaux que de toute façon elles seront vouées à l'échec et à la mort très rapide à court terme.
Il y a Bernard qui dit stop aux méga collisionneurs du CERN, jouets et fonds de commerce des scientifiques. Bon, bah, il y a des messages évidemment qui sont assez sévères.
On vend rien, nous.
Mais c'est très
On vend rien, on donne tout, nous.
C'est très partagé. Emmanuel demande s'il n'y a pas une nappe phréatique quand même à l'endroit de la frontière franco-suisse.
Donc l'étude de faisabilité a défini le tracé du FCC évitant toute nappe phréatique, pas une seule nappe phréatique sera traversée par le...
Sylvie demande, est-ce que l'accélérateur de particules, le LHC, sera démantelé en 2040 ? Est-ce qu'il y aura un retour en arrière possible sur l'artificialisation ou pas ?
Alors, en fait, probablement pas. C'est une question encore ouverte, mais probablement pas quand même, parce que donc, au CERN, on réutilise toujours les précédents accélérateurs comme injecteurs. Et donc, du coup, on recycle nos précédents accélérateurs pour la machine suivante. Donc, le LHC pourra potentiellement être réutilisé et donc pas démanteler, ni même une friche.
Oui, François Graner, c'est intéressant ça, le fait de pouvoir...
Alors, dans l'étude de faisabilité, il y a une très bonne étude de la première phase sur le démantèlement, parce qu'ils veulent construire la deuxième phase. Il y a une incertitude totale sur ce que deviendra la deuxième phase ensuite.
Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Je termine avec ce message de José qui dit bravo aux intervenants pour ce débat sans engueulade où chacun s'écoute.
Oh bah j'espère bien.
Bah c'est pas si mal d'avoir réussi.
Ce débat se passe très bien, effectivement.
Oui,
merci beaucoup.
Merci à vous.
À tous les deux, je cite le livre de Jean-Bernard Bihiter, le CERN, au mépris du GIEC, c'est aux éditions d'en bas. Et puis je cite également ce livre auquel vous avez participé, François Graner, Et soudain, le futur, c'est une bande dessinée. On en avait parlé avec Roland Lehoucq aux éditions Rue de Sèvres. Merci également à Lucie Sarfati qui a préparé ce dossier, Arnaud Caillé à la technique et Jérôme Boulet qui réalisait cette émission.